19h22 sur France Inter.
France Inter, le 18-20.
Heureusement que nos ancêtres les Gaulois ne sont plus là, les pauvres auraient sûrement mal vécu la séquence en cours qui avait peur que le ciel leur tombe sur la tête. Car voilà 3 semaines que cela dure, que les orages succèdent aux orages avec un cocktail détonnant, éclairs, tonnerres, pluies diluviennes, grêle, inondation, désolation, coupure de route et de courant. On déplore plusieurs victimes, la dernière en date retrouvée morte dans son véhicule immergé dans une rivière en crue dans le Cher ce matin. Il y a également des dégâts considérables et tout cela n'est sans doute pas fini. 8 départements sont ce soir encore en vigilance orange. Les sinistrés, eux, constituent des dossiers pour les assurances. Les agriculteurs implorent le ciel. Il n'y a guère que les chasseurs d'orages qui sont à la fête. Alors ce soir, au téléphone sonne, on va tenter d'en savoir plus sur ce phénomène, son étendue et la saison où il intervient. Pour en parler avec nous ce soir, Robert Votard, climatologue, chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Étienne Capiquian, qui est prévisionniste à Météo France. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Anne Bongdiou, physicienne, directrice de recherche au groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Vous êtes co-auteur de Terre d'orage, publié aux éditions du CNRS. Et puis en duplex de Montpellier, Alix Roumaniac. Bonsoir.
Bonsoir.
Président de Predict Service, spécialisé dans la gestion des risques. Merci à nos confrères de France Bleu Hérault pour cette liaison à distance.
Claire Servageant, le téléphone sonne.
Et tout de suite, nous allons au standard du téléphone sonne retrouver Maurice qui nous appelle de la région lyonnaise. Bonsoir Maurice.
Eh bien bonsoir aux France Interiennes et aux France Interiens. Et merci pour votre émission qui nous donne la parole.
On vous écoute Maurice.
Alors, j'ai plus une observation qu'une question à vous soumettre. Donc, j'habite dans les contreforts des monts du Lyonnais depuis 15 ans et je suis environné de prés et de bois et j'observe mon environnement de façon très attentive. Et je remarque une évolution linéaire depuis cette période où effectivement, je remarque la fréquence et la violence des orages qui est de plus en plus effectivement soutenue. Des micro-coupures électriques, moi c'est surtout au niveau de la foudre que je suis gêné, des micro-coupures et des coupures de réseau longues par excès donc de par foudre sont de plus en plus fréquentes. Mon ordinateur, j'ai déjà changé 2 cartes réseau parce que même avec des orages lointains étant en bout de ligne électrique, je subis des surtensions qui sont très nocives. Des micro-coupures, quand vous parlez du tennis à 19h15, paf, micro-coupure inopinée et puis un éclair dans le lointain.
Il n'y a pas de chance Maurice, hein.
Oui, mais bon, ça, c'est pas le pire. Moi, je vous dis, c'est même pas tellement encore les précipitations qui me posent problème, mais elles sont si très violentes. Mais effectivement, c'est surtout, j'observe beaucoup au niveau de la foudre, et ça devient gênant, puisqu'on a des dégâts qui en résultent. Et puis, d'autre part, sur une vision plus globale, je remarque également qu'on a un climat qui évolue sur la violence des réactions naturelles, enfin, tout moins, oui, des enchaînements d'équilibre naturel. La saison d'été est de plus en plus longue. Moi, j'ai quand même un écran thermique parce que je vis quand même environné de forêts. Et donc, néanmoins, il fait très chaud de plus en plus tôt dans l'année. Et la saison estivale dure très longtemps et avec très peu de précipitations de pluie. Et par contre, toujours des orages violents. Et
merci,
donc
Maurice.
La nature en souffre énormément parce que moi je vois les châtaigniers qui sont les principaux arbres dominants. Ils ont un bon tiers de leur hauteur qui est morte, qui est sèche, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir assez d'eau pendant tout l'été pour alimenter jusqu'au sommet. Et donc pour moi, je lis ça comme l'évolution d'un climat tropical où on a une saison des pluies avec beaucoup de violence, d'intensité et une saison sèche.
Eh ben merci pour toutes ces observations Maurice. Robert Votard, vous qui êtes climatologue, il a fait de bonnes observations Maurice?
Alors oui, il y a beaucoup de choses qui sont. Alors il y a beaucoup de choses dans ces observations. Alors la première chose, c'est les phénomènes de foudre. Je suis pas sûr que nous ayons le recul aujourd'hui, avec un peu moins de 20 ans d'observation, pour pouvoir dire s'il y a une tendance réelle ou en tout cas qui soit significative au sens statistique. Mais ce qu'on sait, c'est que effectivement les pluies, et particulièrement les pluies les plus fortes, sont en augmentation d'intensité, particulièrement sur le pourtour méditerranéen. Je cite juste un chiffre On a pu montrer par plusieurs études que sur le pourtour méditerranéen, les phénomènes de pluie cévenole ou de pluie méditerranéenne, les plus fortes, sont en augmentation d'une vingtaine de pourcents depuis 50 ans. Hein. Donc c'est une évolution qui est très significative et qui ne vaut que pour les pluies les plus fortes. Donc voilà. En revanche, monsieur cite aussi le décalage des saisons, les vagues de chaleur, et ça c'est directement attribuable au changement climatique. On a vu par exemple en 2017 une vague de chaleur apparaître très forte, apparaître début juin. En 2016, une vague de chaleur très forte apparaître mi-septembre. Voilà, ce sont des phénomènes qui sont assez nouveaux et qui vont être amenés à se répéter.
Alors pour en revenir peut-être à la séquence qu'on est en train de vivre là depuis le mois de mai, Étienne Capiquian, vous qui êtes prévisionniste à Météo France, est-ce que c'est oui ou non une séquence exceptionnelle ?
Oui, on peut vraiment dire qu'on a une séquence exceptionnelle au niveau de la fréquence et de la persistance des orages sur le territoire. Depuis, en gros, le mois de mai, ça s'est renforcé en deuxième quinzaine du mois de mai et jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, avec un nombre d'orages record pour un mois de mai. Puisqu'on a relevé du nombre d'impacts de foudre, on a observé 182 000 impacts de foudre sur le territoire, ce qui est à peu près trois fois la normale d'un mois de mai.
Mais alors pourquoi ces orages en deux mots au niveau météorologique, quelle est l'explication ?
Ça s'explique par la configuration météorologique atmosphérique à l'échelle européenne qui est restée bloquée dans une configuration propice aux orages depuis le mois de mai, avec en particulier donc une dépression persistante vers la péninsule ibérique et un anticyclone persistant vers l'Europe du Nord qui a entretenu à la fois des remontées d'air chaud sur le pays d'air chaud et humide et donc de l'air frais en altitude favorisant les orages, mais et surtout une situation qui a persisté vraiment depuis plusieurs semaines.
Anne Bondieu, vous qui êtes spécialiste de la foudre, vous l'avez remarqué aussi, séquence particulièrement exceptionnelle.
Oui, on l'a bien sûr remarqué. Enfin, moi, depuis que je travaille sur ce sujet, je crois n'avoir jamais vu sur Paris, en tout cas. Nous, on travaillait beaucoup aux États-Unis. On allait chercher les orages en Floride centrale. J'ai l'impression que mes collègues, maintenant, pourraient se contenter de rester en région parisienne.
Comment on mesure les impacts de foudre ? Comment on calcule tout ça ?
Alors, il y a plusieurs méthodes. Il y a des méthodes depuis le sol, où on mesure des champs magnétiques très, très puissants ou des champs radioélectriques puissants au moment des impacts de foudre. Il y a aussi des méthodes embarquées sur satellite, où là, on est sensible à la lumière émise par l'éclair. Alors, il faut être un petit peu prudent pour ne pas mélanger ça avec les lumières urbaines. Il y a des caractéristiques très précises, ça dure très peu de temps et ça a une sorte de signature dans le temps extrêmement particulière. Donc on a des méthodes de mesure, mais comme vous l'avez très bien dit, on n'a pas encore beaucoup de recul et on n'est pas tout à fait capable de faire pour l'instant des statistiques précises sur l'évolution du nombre d'impacts.
Et on est encore dans cette séquence qui n'est pas terminée puisqu'il y a une nouvelle alerte aux orages. Alix Roumaniac, vous qui êtes à Montpellier, beaucoup d'orages, beaucoup d'inondations aussi.
Oui, effectivement, cette séquence orageuse génère effectivement de la foudre, comme c'était signalé, mais aussi avec des intensités très fortes des inondations. Alors, ce sont des inondations qui sont des inondations rapides, ce qu'on appelle, c'est des inondations de type méditerranéen. Hein, c'est pas la crue de Paris du mois de janvier. Et en fait, ça touche des petits bassins versants, et donc c'est des communes qui sont pas forcément habituées à avoir ce type de phénomène. Et lorsqu'il y a des intensités très fortes, qui sont très courtes, hein, ça dure que quelques demi-heures, une heure, mais avec des intensités très fortes, ça fait bouger des petits cours d'eau, et ce sont ces petits cours d'eau qui génèrent ces inondations. Et donc il faut être très prudent par rapport à ces réactions brutales, en fait.
Et ça veut dire que vous parlez d'averses méditerranéennes, même quand ça se passe à Paris?
Ben c'est un peu ça la particularité
ça,
de ce
mal,
phénomène
hein.
En ce moment. Oui, c'est en fait
ça nous fait plaisir quelque part.
On retrouve en fait des caractéristiques sur ces crues rapides que l'on connaît bien sur le sud de la France. Et là, en ce moment, on les retrouve aux quatre coins de la France. Ce qui s'est passé à Morlaix, ce qui s'est passé sur la Charente-Maritime, ce qui s'est passé en Alsace. En fait, nous, on accompagne les maires jour et nuit sur ces phénomènes-là. Et en fait, on retrouve ces crues rapides partout. Et pour signaler effectivement le phénomène, normalement, dans une année normale, on passe, les ingénieurs de prédic passent samedi jour et nuit de surveillance active en 3-8. Déjà là, au moment où on parle, on est à plus de 90 jours depuis le début de l'année. Et là, ça fait 6 semaines non-stop que les ingénieurs se relaient pour justement accompagner tous les maires et tous les citoyennes de toute la France sur ces phénomènes.
Alors, on va en reparler évidemment de ces alertes et de la façon dont les communes peuvent réagir. Mais on va d'abord prendre Pierre qui est en ligne au standard du téléphone sonne. Pierre qui nous appelle de la Guadeloupe, paraît-il. Bonsoir Pierre, ou bonjour, je ne sais pas. Oui, bonjour.
Non, bonsoir, on dit bonsoir ici à partir de midi, donc c'est pas un problème. Mais merci d'exister déjà, France Inter et vos émissions, Denis Chessou, Mathieu Villard, etc. Mais voilà, nous, en Guadeloupe, moi je suis arrivé en 2002 en Guadeloupe, et des Guadeloupéens, moi je suis métro, hein, ça s'entend, hein, des Guadeloupéens m'ont dit la saison sèche, elle est plus sèche. Et depuis que je suis arrivé, c'est-à-dire ça fait depuis 2002, de plus en plus la saison sèche est humide et de plus en plus la saison humide est violente. Autrement dit, nos orages, enfin je ne sais pas ce qu'en pensent les météorologues, climatologues, etc., mais vos orages de métropolitains sont planétaires, ils viennent de chez nous et le changement est planétaire, c'est pas européen, c'est pas français, c'est planétaire. Il serait temps que les Trump et compagnie s'en rendent compte, quoi. Voilà, je vous remercie d'exister, merci de m'avoir donné la parole et merci de vos émissions.
Merci Pierre, ça fait plaisir de vous entendre en tout cas. Robert Vautard, vous êtes d'accord avec ce que nous dit Pierre là?
Et oui, bien sûr, le changement climatique est planétaire. Les concentrations de gaz à effet de serre augmentent partout dans l'atmosphère et la température avec, peut-être encore plus dans les régions polaires que dans les régions tropicales. Mais dans les régions tropicales, elles ont un effet direct sur les pluies de plus en plus intense, comme on le disait, tout comme en France métropolitaine ou en Europe, ces pluies intenses deviennent effectivement beaucoup plus intenses. Il y a une raison à cela, c'est que une atmosphère plus chaude d'un degré peut contenir 7% de plus d'humidité. Or, cette humidité, quand elle se retrouve dans un orage et que cet orage déverse toute son eau ou pratiquement, eh bien nécessairement, ces pourcents supplémentaires sont déversés également et les pluies sont plus intenses qu'avant. Voilà.
Moi, j'ai une question pour le prévisionniste de Météo France, Étienne Capiquian. Est-ce que un tel phénomène, avec autant d'orages, enfin un tel bouleversement, puisque ça a l'air d'être nouveau, est-ce que ça vous complique votre travail ou pas, de prévisionniste? Est-ce que les choses sont plus compliquées ou pas? Pas vraiment.
Pas spécialement. Disons que c'est surtout sur la durée. Disons qu'habituellement, on a souvent des orages au mois de mai. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est vraiment, ça fait partie de notre climat.
Mais pour affiner vos prévisions, par exemple.
Mais non, là, c'est juste ce qui est plus dur. C'est qu'on assiste à une répétition de ces situations météorologiques. Mais finalement, c'est juste en termes de fréquence. C'est pas en termes de difficultés particulières. On a des modèles assez performants qui permettent de simuler l'évolution de l'atmosphère à relativement fine échelle. On a des modèles qui simulent l'atmosphère à une résolution de 1 à 3 km et qui sont de meilleure qualité qu'il y a 5-10 ans et donc qui permettent d'affiner le risque orageux, même si c'est pas encore parfait à la commune près.
Anne Bondiou, est-ce que vous pourriez nous réexpliquer très simplement le phénomène de la foudre?
Alors, le phénomène de la foudre, je pourrais laisser d'abord mes collègues parler de la formation du nuage d'orage, mais pour aller vite, on va estimer que le nuage est formé, donc de l'air chaud et humide, et qui s'élève à des hauteurs impressionnantes. Ensuite, il y a un phénomène qui s'appelle l'électrisation, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce nuage, il y a l'eau sous un tas de formes, du grésil, des grêlons, des gouttes, des gouttelettes. Et on a mis beaucoup de temps à comprendre, parce que c'est assez compliqué, il a fallu passer par le laboratoire, que en fait, entre ces diverses formes, ces diverses hydrométéores, petites particules, il y a des collisions, et qu'au moment de ces collisions, il y a une physique très fine, locale, qui explique qu'il y a de la charge électrique qui apparaît sur les particules de grésil et sur les cristaux de glace. Et l'état de surface est tel qu'il apparaît des charges de signes opposés entre ces différentes particules, et il se crée un champ électrique. Et à un moment donné, si le champ électrique est trop intense, l'air subit ce qu'on appelle une rupture, comme beaucoup de matériaux. Il subit un champ électrique jusqu'à un certain point, et puis il est en rupture, et donc il se produit une étincelle qui est capable, là, de se propager sur très longue distance, parce que le champ électrique est installé sur des distances énormes. Voilà, c'est très rapide, il y a plusieurs types d'éclairs, ceux qui restent à l'intérieur du nuage, ceux qui viennent frapper le sol, mais ils obéissent tous à une même physique, qui est en réalité celle, et c'était le génie de Benjamin Franklin au XVIIIe siècle, qui est la même que celle de la toute petite étincelle. Simplement, il y a une échelle qui est extrêmement différente.
Vous n'étiez pas surprise par ce qu'a dit Maurice tout à l'heure à propos de son matériel informatique
Alors, bon, il faut regarder de près, mais c'est vrai que nos sociétés, nos technologies sont vulnérables, c'est certain, nos réseaux électriques sont vulnérables, et donc il est de plus en plus nécessaire de prévoir au mieux ces événements et de savoir protéger nos installations. Comme on sait protéger des avions, on y reviendra peut-être plus tard.
Mais on va peut-être tout de suite donner quelques conseils, parce que cette vague d'orage n'est pas terminée. Premier conseil, avant de parler de nos installations, parlons de nous peut-être. C'est les conseils qu'on a entendus, mais c'est peut-être pas inutile de les rappeler. Premier conseil, qu'est-ce qu'on fait quand on est dehors ?
Alors, quand on est dehors, ça c'est des conseils de bon sens. Hein, je pense qu'on se transmet de génération en génération. S'abriter, ne pas se placer sous un arbre. Il y a des règles aussi, si on entend le tonnerre très proche de la lueur de l'éclair, c'est aussi une chose qu'on a appris quand on était tout petit, mais il faut savoir que l'orage est très proche et qu'il faut absolument s'abriter. C'est évidemment assez dangereux de se retrouver en montagne. Il reste, les dernières statistiques que j'avais consultées aux États-Unis, il continue à y avoir 40 à 50 victimes par an de la foudre, en général des gens qui sont dehors, qui font du golf, de la pêche à la ligne à cause de l'instrument auquel
ils ont recours.
En France, quoi,
entre une dizaine de victimes chaque année.
Une dizaine, ça reste évidemment tout à fait absurde de que ça existe encore. On n'a aucune donnée d'ailleurs sur les pays en développement. Bon, on a quelques données sur nos pays à nous.
Alors, je crois qu'Alix Roumaniac à Montpellier va intervenir sur ce sujet également.
Oui, en fait, nous on utilise la foudre, la mesure de la foudre. Il y a notamment une société spécialisée qui s'appelle Météorage, qui dépend de Météo France, et qui mesure, comme c'était expliqué par Anne, les impacts de foudre. Et on a une prévision de la possibilité des orages, et après on suit l'observation, donc à travers les images radar, où l'on voit les pluies intenses se déplacer, et les impacts de foudre. Il faut savoir qu'on a des outils qui nous permettent à la seconde près de voir les impacts de foudre, et donc de voir la trajectoire des orages, et donc d'anticiper leur venue. Et c'est comme ça que l'on peut faire passer les messages aux différentes maires, aux différents personnes, citoyens, pour se mettre en sécurité. Et comme vous le disiez, il faut éviter de se mettre à l'extérieur pour la foudre, mais il faut aussi d'avoir des bonnes attitudes par rapport au risque de ces crues rapides, de ces inondations sur les chaussées, sur les passages à gué, éviter de prendre le véhicule. Donc tout ça font partie des consignes, effectivement, qu'il faut faire passer dans cette situation d'orage qui va se poursuivre. Hein. C'est vraiment la plus grande prudence lorsque l'orage arrive.
Voilà, faire preuve de prudence en cas d'orage. Cela dit, les orages, il y en a qui les adorent. Ce sont les chasseurs d'orages. Et figurez-vous qu'on est en ligne avec Kevin, chasseur d'orages. Bonsoir, Kevin.
Bonsoir.
Vous êtes dans quel coin ? Vers Nancy, c'est ça ?
C'est ça, entre Nancy et Lunéville.
C'est le bonheur en ce moment pour vous ?
Ah, oui, c'est une très bonne période. Hein, depuis un bon gros mois, on sort beaucoup, on voit de très belles choses. Donc oui, c'est une très bonne période pour nous.
Alors expliquez-nous quel est l'intérêt pour vous ? C'est faire des photos ? C'est quoi ? C'est le spectacle ?
C'est multiple, hein. Il y a les photos, le spectacle, il y a les paysages aussi, hein, dans lequel évoluent les orages. Donc oui, il y a beaucoup de choses, hein, les lumières, les structures des orages. Enfin, il y a beaucoup de choses à voir en fait sous un orage. Les gens ne se rendent pas compte en fait parce qu'ils laissent pas trop les yeux au ciel quand il y a de l'orage, mais il y a de très belles choses à voir sous un orage.
Vous n'étiez pas du genre à avoir peur de l'orage quand vous étiez petit?
Non, pas moi. Certains chasseurs d'orage étaient du genre à avoir peur avant, mais moi, ça me fascine depuis tout petit. Donc.
Et vous avez réussi quelques beaux clichés, là ?
Ah oui, ces derniers temps, oui, j'ai vraiment fait des photos. Je pensais même pas pouvoir en faire des comme ça au niveau de la France, donc je suis très content.
Et quand vous faites ça, Kevin, vous le faites tout seul ou avec des mordus comme vous ?
Alors là, ce dernier mois, je l'ai fait tout seul, mais normalement, on chasse à... On est quand même, on se connaît pas mal dans la communauté, on va dire, des chasseurs d'orage. Donc, on chasse à plusieurs. Et puis, moi, je chasse souvent avec un ami pareil, chasseur d'orage. Donc en général, ça fonctionne souvent en binôme, voire à trois.
Eh ben, on vous souhaite encore quelques orages à vous, Kevin, puisque vous aimez ça. Merci beaucoup d'avoir témoigné sur cette antenne. Anne Bondiou, vous qui avez beaucoup travaillé sur cette question des orages, historiquement, ça représente quoi? Il y a toute une mythologie autour des orages. Il y a une peur aussi.
Oui, il y a une mythologie et il y a deux choses qui frappent. D'abord, c'est une mythologie qui est extrêmement universel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de culture, il n'y a pas de cosmogonie sans qu'il y ait des dieux de l'orage, des représentations mythologiques de l'orage. Donc vraiment qu'on aille même dans le Grand Nord, là où on s'attendrait pas trop à trouver des dieux de l'orage. Mais je rappelle que les dieux scandinaves de l'orage étaient très puissants. Et évidemment, bien sûr, des mythologies en Afrique, en Amérique latine, etc. Donc c'est une universalité, ça c'est très clair. Autre chose qui frappe, c'est la dualité. C'est-à-dire que dans toutes ces mythologies, il y a toujours une figure à la fois bienfaisante de l'orage, probablement au travers de la pluie fertilisante, mais il y a aussi, évidemment, la peur, le courroux du dieu ou des dieux, selon les cas. Donc, dualité, universalité, et il y a une richesse incroyable de mythologie.
Pour vous aussi, c'est une période particulière en ce moment ?
Oui, bon, je travaille plus sur ce sujet, mais j'ai gardé une sorte de veille scientifique un petit peu de loin, et puis toujours la même fascination. Moi, je suis assez de la vie des chasseurs d'orage. C'est un très beau spectacle.
France Inter, le 18-20. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé Telson.
Bonsoir Pacôme.
Bonsoir.
Vous nous appelez de Paris.
Tout à fait.
Alors dites-nous tout.
Alors, moi, je m'intéresse depuis un certain temps aux farfadets. Alors, Anne Bondiou pourra peut-être me répondre un petit peu plus que les autres, sachant que c'est un nouveau type, enfin un type d'éclair qui a été découvert récemment et qui se fait au-dessus des orages, donc avec un autre type de foudre que les histoires de frottement entre les particules et tout ça. Et je voulais savoir qu'est-ce qu'on en savait aujourd'hui.
Alors, on va poser la question à Anne Bondiou, ou peut-être répondre à Pacôme.
Oui, alors en réalité, c'est connu depuis assez longtemps. Hein. C'est connu et vraiment étudié de près depuis le début des années 90 par la communauté des physiciens spécialistes. Ce sont des décharges qui se développent plutôt très très au-dessus des orages. Ça se développe plutôt dans la stratosphère, c'est-à-dire autour de 20 km, parfois plus. Et il y a toute une diversité de couleurs, il y a plusieurs phénomènes, il y a des phénomènes filamentaires, d'autres qui sont plus diffus. Ils sont manifestement liés aux orages, mais ils interviennent dans des zones de l'atmosphère où il y a très peu de pression et où donc les conditions de claquage et les conditions de développement d'une décharge sont totalement différentes. Mais on les étudie, ils ont été observés, je crois, pour la première fois par des pilotes et puis ensuite, depuis le sol et depuis l'espace, il y a une mission du CNES qui s'appelle Taranis, qui regarde ces décharges au-dessus de l'atmosphère que nous connaissons dans la stratosphère.
Une autre question pour vous, Anne Bondiou, c'est Jean-Louis qui est en ligne. Bonsoir Jean-Louis. Non, Jean-Louis n'est pas en ligne. Enfin, je vous pose sa question. Pourquoi, quand nous allons à la piscine en extérieur, quand il y a de l'orage, on nous fait toujours sortir du bassin ?
Je crois qu'il vaut mieux que les gens soient à l'extérieur, puis l'eau, elle peut être, alors selon ce qu'elle contient, elle peut être un peu conductrice. Donc oui, c'est de toute façon préférable de se mettre à l'abri, quelle que soit l'activité. Je ne recommande pas de se trouver en haut d'un plongeoir, dans tous les cas.
Pascal nous appelle à son tour. Bonsoir Pascal.
Oui, bonsoir. Donc moi, je suis prévisionniste à Météo France Strasbourg pour la zone de défense Est depuis bientôt 40 ans. Donc j'habite au centre Alsace et je remarque que nos repères sont en train de changer pour nous les professionnels du temps. Deux exemples. Il y a 2 ans, nous avions émis une vigilance canicule fin août avec de très fortes chaleurs parce que pour la vigilance canicule, il faut que les très fortes chaleurs persistent pendant plus de 3 jours. Et alors que la durée des journées fin août est en nette diminution puisque fin août, on a des journées qui ne sont pas plus longues que fin avril. Deuxième exemple. Cette année, nous avons fait une vigilance orange orage en avril. Et pour moi, c'est la première fois dans le Nord-Est qu'on a fait une vigilance de manière aussi précoce. Parce que généralement, la vigilance orange-orage n'était pas d'actualité avant le 10 ou le 15 mai. Voilà. Donc maintenant, nous battons assez souvent des records de précipitations lors des épisodes orageux. En fait, on a une atmosphère qui est dopée en CO2, comme jamais vu depuis 800 000 ans. Et comme disait une personne précédemment, un degré de plus, c'est effectivement 7% de vapeur d'eau dans l'atmosphère en plus. Donc, c'est comme vous mettez une casserole remplie d'eau sur votre feu, et vous observez ce qui se passe. Vous allez créer des mouvements verticaux dans l'eau, vous augmentez le chaos. Et dans l'atmosphère, c'est ce qui se passe. Or, l'atmosphère ne peut pas surchauffer. Elle va se rééquilibrer d'une manière ou d'une autre. Et elle va le faire par l'intermédiaire de la chaleur sensible ou de la chaleur latente. La chaleur sensible, ce sont des températures plus élevées, et donc on va assister à des canicules plus fréquentes. Et la chaleur latente, c'est le cycle évaporation, condensation, précipitation. Et donc vous allez renforcer ce cycle et vous allez renforcer les phénomènes orageux. Voilà, moi j'ai 40 ans de boîte et c'est ce que je remarque.
Eh ben bravo, merci beaucoup pour toutes ces explications, Pascal. Visiblement, tout le monde approuve ici, hoche de la tête, Robert Votard.
Oui, oui, oui. En effet, tous les ans, la Terre accumule de l'énergie supplémentaire due à l'augmentation des gaz à effet de serre. Et cette énergie, qui est principalement d'ailleurs stockée dans l'océan, se retrouve in fine dans l'atmosphère et a différents effets un peu partout dans le monde, dont celui d'augmenter l'humidité. On parle de l'augmentation du cycle de l'eau, de l'accélération du cycle de l'eau, plus d'évaporation, plus de précipitation, et particulièrement les précipitations intenses. Et ce qui peut se passer aussi, c'est que on a des régions, y compris en France, qui ont subissent à la fois plus de sécheresse et plus de précipitations intenses. Donc on a une augmentation un petit peu des phénomènes extrêmes qui est liée à cette augmentation de l'énergie dans l'atmosphère. Ce n'est pas vrai pour tous les phénomènes extrêmes. Je précise que, par exemple, on ne voit pas de signal très très marqué dans les tempêtes, particulièrement dans les tempêtes hivernales. C'est des choses qu'on regarde depuis un moment, mais on voit pas grand chose. Donc l'énergie, elle est très marquée dans les phénomènes thermiques et thermodynamiques. C'est tout à fait exact ce qu'a dit notre collègue.
Enfin, ça veut dire que tous ces bouleversements risquent d'entraîner des phénomènes extrêmes, des victimes, des dégâts. Ça veut dire qu'il va falloir vraiment réfléchir à la prévention des risques. Alix Roumaniac, vu que c'est votre travail, je m'adresse à vous.
Oui, effectivement, on a des phénomènes qui sont un peu tous vont dans le même sens et pas forcément dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'urbanisation, la population augmente, on a de l'urbanisation, on a de l'imperméabilisation des sols, on a encore de l'urbanisation en zone inondable et en parallèle, comme ça a été indiqué, des événements qui sont un peu plus extrêmes avec des précipitations fortes. Donc, par rapport à ça, l'investissement pour empêcher le risque, parce que l'être humain adore dire on pourrait faire des investissements, faire des digues, faire des barrages pour empêcher. Les investissements sont énormes et ne peuvent pas répondre à ces phénomènes extrêmes. Et donc la seule voie, c'est l'adaptation en fait des attitudes, la compréhension, la culture du risque, de manière à prendre les bonnes attitudes, éviter de se mettre en danger, prendre d'abord bien sûr protéger les vies humaines, ne pas sortir, se mettre aux étages quand il y a des événements forts, essayer de protéger les biens, essayer d'anticiper un certain nombre d'actions. C'est vraiment cette voie sur laquelle nous travaillons en ce moment et nous voyons avec intérêt des évolutions quand même depuis 10 ans qui vont dans le bon sens.
La France se situe comment en matière justement de culture du risque, Alix Roumaniac? Un petit peu en retard?
Pas forcément. On a souvent l'habitude d'être assez critique envers nous-mêmes, les Français. C'est pas forcément le cas. Et notamment, il y a un concept qui existe en France et qu'on retrouve très peu ailleurs sur la planète. C'est le concept de plans communaux de sauvegarde qui a été instauré en France par le législateur dès 2004, qui demande au maire de réaliser à l'échelle de la commune un plan d'action, de se préparer à gérer le risque. Et en fait, c'est une spécificité française qui commence à s'exporter, donc c'est un signe assez positif. Donc la France se situe quand même dans un pôle de tête sur ces notions de prévention de risque.
Robert Votard.
Oui, je voulais ajouter un point qui me paraît important, c'est que bien souvent les chiffres qu'on annonce concernant le changement climatique, 1 degré jusqu'à aujourd'hui, globalement, où on parlait de 7% d'humidité, voilà, c'est des chiffres qui peuvent paraître petits a priori, mais lorsqu'on est dans les extrêmes, Nos sociétés sont adaptées jusqu'à un certain point et après les réactions sont un peu catastrophiques. Si on prend par exemple la mortalité ou l'excès de mortalité qu'on voit dans une ville dès lors qu'on dépasse des températures vraiment très fortes, eh bien elle reste relativement stable et d'un coup elle se met à augmenter très fortement cette surmortalité. C'est donc ces petits degrés ou ces petits pourcents qui sont en plus qui ont des conséquences catastrophiques.
Et d'autant plus qu'aujourd'hui, Météo France nous a annoncé prévoir 4 à 5 degrés supplémentaires à Paris d'ici à la fin du siècle. Je ne me trompe pas, monsieur Capiquian. Ça fait beaucoup quand même, 4-5 degrés, c'est énorme.
Ça fait partie des scénarios, effectivement, mais bon, il y a une fourchette d'incertitude qui méritera d'être affinée au fil des années. Mais oui, c'est beaucoup et donc ça c'est une moyenne sur le climat futur et qui peut se traduire par des pics de canicule par exemple beaucoup plus extrêmes à l'échelle par exemple d'une semaine ou de 2 semaines où on peut être 10-15 degrés au-dessus des normales.
On a des questions sur internet pour vous Anne Bondiou sur la foudre. Alors question sur la qu'est-ce qui se passe si la foudre tombe sur la Tour Eiffel? Je crois que ça s'est produit plusieurs fois cette semaine et sur un avion. Voilà, c'est à vous.
Sur la Tour Eiffel, il se passe rien.
C'est un paratonnerre,
c'est un magnifique paratonnerre. Donc le courant s'écoule tranquillement vers le sol et donc il y a pas de dommage. Sur un avion, au début de l'aviation, il y a eu quand même quelques problèmes puisque l'orage c'est un milieu extrêmement hostile hein, pour un avion. Il y a des turbulences, de la grêle, de la foudre bien sûr. Il y a du givrage aussi. Mais assez vite, les grands pays aéronautiques, que sont les États-Unis, la France et puis quelques autres, ont lancé une série de recherches et puis en particulier, on fait voler des avions dans les nuages d'orage, des avions de recherche, pour que ces avions soient foudroyés, pour qu'on puisse comprendre les mécanismes. Et jusqu'au milieu des années 90, c'est des mécanismes assez mal compris. Donc maintenant, on dispose en fait de deux outils quand même pour se défendre. Et finalement, il y a plus d'incidents, même si un avion est en moyenne foudroyé une fois par an. Il n'y a plus d'incidents parce que d'une part, on prévoit bien les situations. Ça, c'est grâce aux prévisionnistes et grâce au déport dans le cockpit des informations météorologiques. Et puis, les avions, pour être qualifiés, certifiés, doivent subir des tests. Et donc, ils sont parfaitement protégés, qualifiés, certifiés. Mais on évite quand même
oui, effectivement,
de s'y risquer de trop près.
C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Voilà, on a aussi des témoignages qui nous arrivent sur franceinter.fr, notamment celui de Florent, viticulteur, qui travaille dans un vignoble. J'ai jamais vu ça. Je sais pas de quelle région il nous a envoyé son message. J'ai jamais vu ça. Lorsqu'on travaille toute l'année pour que nos vignes soient détruites en quelques minutes, c'est atroce. Pleurer n'est pas très utile, mais cela soulage. C'est vrai que faudrait peut-être Alix Romagnac y penser un petit peu plus. Vous avez moyen vous de prévenir les agriculteurs en temps réel?
Oui, alors c'est un sujet sur lequel on travaille. On peut prévenir les agriculteurs sur les orages, notamment les orages de grêle. Et c'est peut-être des gens du Bordelais ou du Cognac, puisqu'il y a eu notamment la semaine dernière des très très gros phénomènes sur ces zones-là. À travers les mesures radar et notamment les progrès que fait Météo France sur les fortes intensités, on arrive à identifier les orages de grêle avec la foudre. La seule chose, c'est que le temps de réaction est très court, puisque un orage de grêle, en fait, on peut avoir une anticipation qui va autour de l'heure, en fait. Et il faut être en capacité de pouvoir faire quelque chose. Alors, sur certaines cultures, notamment les kiwis, les agriculteurs peuvent mettre des filets anti-grêle qui restent en permanence. Sur la vigne, c'est impossible de mettre des filets anti-grêle. Alors, l'espoir que l'on a, c'est sur le nord de l'Italie, on a des filets anti-grêle qui sont automatisés hein, et qui peuvent se déployer tout seul avec une petite motorisation. Et aujourd'hui, grâce aux applications, nous, smartphones qu'on utilise, on a une application gratuite qui s'appelle MyPredict qui permet de recevoir une notification quand les fortes pluies ou le risque d'inondation arrive. On est en capacité de transmettre cette information et on peut imaginer que dans l'avenir, on puisse transmettre une notification à un petit moteur qui puisse déployer un filet anti-grêle. Là, il faut voir un peu en termes de coûts économiques quand est-ce que ces systèmes pourront être rentables pour des vignobles.
Alors, justement, vous parlez des problèmes de coûts. Un petit mot, parce que ça, c'est un autre sujet, mais il faut quand même le signaler, la question des assurances. Cette question va se poser. Les personnes sinistrées sont en train de préparer leurs documents. On attend des arrêtés de catastrophe naturelle. Ce qu'on peut dire, c'est que évidemment, au vu de ce qu'on vient de vivre, il y aura forcément des coûts supplémentaires et que, au bout du bout, ce sera sur, ça va retomber sur l'ensemble de la collectivité via les contrats d'assurance.
Alors aujourd'hui, cette semaine, hein, se tenait à Paris en fait la journée de la Caisse centrale de réassurance, hein, qui est l'organisme qui dépend de l'État et qui assure justement qui gère ce qu'on appelle les fonds catastrophes naturelles en fait. Hein, et en fait, il faut savoir que ces fonds sont alimentés par un prélèvement obligatoire sur tous les contrats d'assurance et servent à rembourser en fait les assurés lorsque ce type de catastrophe arrive. L'année 2017 a été une année assez compliquée pour les assureurs, notamment par rapport au cyclone Irma, Maria sur les Antilles. Et effectivement, on a cette année avec les inondations du bassin parisien en janvier, ces vagues d'orage, des choses assez importantes. Les conclusions de ce séminaire et de cette journée de travail montrent que quand même le système de réassurance catastrophe naturelle français est assez résilient et que c'est un système qu'il faut poursuivre et améliorer pour pouvoir justement assurer cette sécurité des gens qui, après une catastrophe, ne se retrouvent pas avec un deuxième effet fait si l'assurance n'était pas là pour les aider.
Alors, cette émission touche à sa fin. On va faire peut-être un dernier tour de table avec ce qui vous paraît à chacun être la priorité, sachant qu'évidemment, on ne peut pas forcément agir sur le climat. Ce n'est pas forcément simple. Pour cette séquence, Anne Bondiou, vous qui êtes spécialiste des orages, il y a encore des orages qui sont annoncés dans votre domaine de spécialité. Quel est peut-être le message que vous souhaitez faire passer?
C'est un message... Bon, probablement, il faut continuer à travailler sur le phénomène, à le comprendre. Il y a encore des choses à comprendre et à améliorer pour pouvoir se protéger au mieux. On a des sociétés vulnérables, je l'ai dit tout à l'heure, les grands réseaux d'énergie, de télécommunications, les avions bien sûr, restent des objets sensibles. Le progrès technologique fait qu'on est un peu plus vulnérable, donc il faut continuer à travailler pour améliorer nos protections.
Étienne Capiquian, vous avez 20 secondes, vous aussi.
Alors, je voudrais rappeler que on n'est pas forcément sur une tendance de fond avec des orages de plus en plus nombreux. Ça va pas forcément être comme ça les années prochaines. Il y a une forte variabilité dans notre climat. L'an dernier, on a eu un mois de mai très sec. Donc, il faut pas non plus être catastrophiste. On est vraiment dans une séquence exceptionnelle. Mais voilà, donc il y a une forte variabilité dans notre climat. Je voulais rappeler ce point.
Robert Votard.
Moi, très simplement, pour pouvoir observer le changement climatique, il faut pouvoir l'observer sur des très longues périodes de temps. Donc, il est vraiment très important de pouvoir maintenir nos systèmes d'observation qui existent déjà et en développer d'autres, bien sûr aussi, mais maintenir ces systèmes d'observation pour pouvoir déduire des choses sur le climat.
Et en revenir aux objectifs de l'accord de Paris, même si Donald Trump s'en est retiré. Alex Roumaniac, allez 10 secondes, mais pas plus.
Ça sera court, hein. Je crois que on l'a répété, la prévention, être prudent, avoir des attitudes d'être raisonnable lorsqu'il y a ces événements, que les communes fassent leur plan de sauvegarde, c'est une façon aussi de se préserver de ces événements extrêmes.
Merci beaucoup à tous, c'est la fin de cette émission.